J'ai juste commencé par dire, j'ai eu quelque chose dans l'œil ce matin, donc vous allez peut-être me voir pleurer de l'œil droit. Donc, je vous prépare, j'ai un œil un peu rouge. Ouais, donc cette semaine, je vais faire du pouce sur le message de Mylène de la semaine passée. On avait parlé de Jonas et de nos préjugés. Et ce dimanche, nous allons parler de la rencontre entre Jésus et de la femme samaritaine. Plus précisément, on va parler de comment Jésus vient abolir nos préjugés et vient initier la réconciliation. Donc, je vais inviter Shadan à l'avant pour lire le passage. Donc, si vous voulez ouvrir dans votre Bible, c'est Jean 4, versets 1 à 42, mais il y a un petit saut. Donc, c'est 1 à 30 et le 39 à 42.
Bonjour. Alors, le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. » D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. »« Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu as dit la vérité. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et viennent vers lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. »
Merci, Shannon. C'est vraiment un gros passage qui se prêche quasiment par lui-même. J'aimerais préfacer en disant que c'est mon histoire biblique préférée. Je l'ai étudié en profondeur pendant ma première année au cégep, dans le cadre d'une étude biblique qui était pour les personnes dans des rôles de leadership dans les groupes GBUC sur les différents campus. Cette année-là a marqué une grande croissance dans ma foi, et cette histoire a eu un rôle fondateur dans cette croissance. Pour expliquer, vous pouvez demander à mes parents ou à mes amis, je suis une personne qui a des convictions fortes, des fois un peu trop fortes, je l'avoue moi-même. Et plusieurs de mes convictions, mes grandes convictions, sont par rapport à la justice sociale et par rapport à l'égalité entre moi et l'autre. Mais je n'ai pas toujours ressenti ou vu que l'Église était impliquée dans cette lutte ou ne l'était pas autant que je pensais qu'elle devrait l'être. Et je ne voyais pas encore le soutien biblique pour ça. Mais cette histoire m'a illustré que ma foi n'est pas parallèle à mes convictions, mais que ma foi soutient mes convictions, au moins certaines d'entre elles. L'étude de ce passage m'a illustré que mon Sauveur, c'est un révolutionnaire et qu'il m'invite dans cette révolution, et que le fondement de cette Jesus Revolution, c'est la réconciliation. Donc, on va commencer par juste parler du contexte. Donc, au tout début du passage, on voit que Jésus essaie de se rendre de Judée, qui est en bas, là, en Galilée, qui est là. Et que ça dit dans un des versets, ça dit « Jésus doit passer par la Samarie ». Pourquoi est-ce qu'il doit passer par là? C'est quoi qui fait qu'il ait ce devoir-là? Une chose à savoir, c'est que les Juifs n'aiment pas les Samaritains et les Samaritains n'aiment pas les Juifs. Généralement, les Juifs passaient par une route qui évitait la Samarie, donc qui passait ici. Parce que la Galilée puis la Judée, ça fait partie du territoire juif. Donc, c'est un détour qui est assez clair. Donc, on voit que on passe par le côté et qui passe par une chaîne de montagnes. Ceci crée la topographie parfaite pour qu'un criminel puisse se cacher et créer une embuscade à un passant. Rappelez-vous de l'histoire du bon Samaritain, ça a lieu sur cette route-là. Et pourquoi? Parce que les Samaritains, c'est des faux juifs, des juifs impurs. C'est un peuple qui est en concurrence avec Israël et qui devient plutôt proche avec d'autres peuples qui ont d'autres religions, d'autres pratiques, qui viennent de d'autres ethnies. Les Samaritains ont des mariages et des enfants avec d'autres peuples et leur religion devient un mélange du judaïsme et de plein d'autres religions dites hérétiques. Le fait de passer par ce détour indique à quel point les juifs veulent éviter les Samaritains. Ils préfèrent par un chemin plus long, plus risqué, plus dangereux que d'interagir avec un peuple impur. On voit en fait que c'est le chemin le plus court qui passe par Samarie, comme j'ai dit tantôt, mais notre Sauveur, Jésus, le Messie, il ne tend pas à être le plus pressé. Il n'est pas du genre pressé. Donc, à travers son ministère, on remarque que Jésus n'est pas efficace. Il ne prend pas le chemin direct. Il prend des détours et il va rencontrer les personnes où ils sont. Donc, pourquoi est-ce que cette fois-ci, il prend le chemin le plus court? Mon hypothèse est alors que Jésus doit passer par la Samarie, pas pour économiser du temps, pas pour éviter un danger. On imagine que Jésus est poussé par le Saint-Esprit à passer à travers la Samarie afin de rencontrer quelqu'un. Jésus n'évite personne. Donc, Jésus se retrouve en Samarie, dans un village qui s'appelle Sichar, vers midi. Il se retrouve à un puits. Et par pur hasard, ou pas, une femme vient au puits. Rappelons-nous où nous sommes et à quelle époque. Donc, on est au Moyen-Orient, avant l'invention des robinets. Donc, chaque domicile n'a pas sa source d'eau individuelle. Donc, il y a un certain nombre de puits par village. J'ai pas fait ma recherche, mais j'imagine qu'il y en a peut-être un, peut-être trois. Il y en a pas tant que ça. Et c'est le rôle des femmes d'aller chercher l'eau, d'aller puiser l'eau pour leur famille. Elles iraient plutôt en matinée pour éviter le gros soleil. Et donc, le puits devient un lieu de rencontre pour les femmes d'un village. Mais notre chère Samaritaine, elle décide de se rendre au puits à midi pour éviter les autres femmes de son village. On va en parler plus tard pourquoi elle fait ça, mais elle veut éviter les autres personnes. Et Jésus lui demande pour de l'eau. Jésus a soif. Elle lui pose alors une question qui vient indiquer la réalité radicale de cette conversation. Elle dit à Jésus, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Nous avons des éléments clés dans cette question qui illustrent l'importance de cette interaction. Premièrement, Jésus parle à une race qui est dite impure. Alors que l'élite de son peuple, les Lévites, les pharisiens, les prêtres, font tout pour éviter les Samaritains, Jésus va à la rencontre d'une personne samaritaine. Il n'y va pas en dégoût, il n'y va pas en tant que supérieur. Et c'est une femme. Notre personne samaritaine, c'est une femme. Et on remarque à quel point cette conversation est étonnante, puisque même les disciples, on l'a lu tantôt, sont étonnés de voir Jésus en train de parler avec une femme. Les femmes étaient considérées comme une propriété à cette époque-là, soit de leur père, soit de leur mari. Elles avaient moins de droits qu'un enfant. Et aussi, on le voit dans la Torah, si vous lisez dans les premiers livres de la Bible, les femmes étaient dites impures lors de leur règle. Donc, la semaine de leur règle et la semaine suivante. Mais pour les Juifs, une femme samaritaine était toujours impure. De sa naissance jusqu'à sa mort, elle était impure. Mais Jésus n'a pas encore fini de nous montrer les frontières qu'il est venu franchir. Quand il lui demande d'aller chercher son mari, elle lui dit qu'elle en a pas. Elle est honnête avec lui et Jésus reconnaît ceci. Et j'aimerais qu'on arrête ici. Parce que moi, au début, la première fois que j'avais lu, j'avais juste dit « Ah, c'est cool, Jésus reconnaît, elle est honnête, c'est bien, on apprécie. » Mais en fait, Jésus est en train de franchir les barrières de l'ethnie, du sexe et maintenant de la classe sociale. D'un côté, on a Jésus qui est considéré comme un rabbin ou un enseignant, qui est un rôle qui vient avec un prestige pour les personnes dans sa communauté. Et de l'autre, on a une femme qui a eu 5 maris. Elle n'est donc clairement pas l'élite. Et c'est pour cette raison, on pense, qu'elle se rend au puits à midi pour éviter les autres femmes. Dans mes lectures précédentes, j'avais assumé que la femme samaritaine avait probablement un trouble sexuel incroyable. C'est pour ça que ses maris, qu'elle a plein de divorces. Mais à cette époque-là, une femme infidèle ou adultère aurait été lapidée. Donc, c'est probablement pas ça. Mais la raison pour ces divorces ne sont pas indiquées. On ne peut que l'imaginer. Mais on sait que 5 reprises, l'homme à qui elle était mariée ont décidé de la divorcer. C'était le choix unique de l'homme à cette époque-là. Et ce n'est pas non plus quelque chose qu'on faisait en secret. Ce n'est pas une petite feuille à signer dans une salle fermée. Non, l'homme amenait sa femme dans la place centrale du village et annonçait à tout le monde qui était là qu'il voulait un divorce à 3 reprises. « Je veux te divorcer, je veux te divorcer, je veux te divorcer. » Je pense que j'ai oublié de changer la salle. Voilà. Donc, à cinq reprises, l'homme sur lequel elle était dépendante a dit qu'il ne la voulait plus. Et ce, parce que le repas du soir avant n'était pas assez bon, ou qu'elle ne pouvait pas porter d'enfant, ou parce qu'elle avait une anomalie physique qu'il n'aimait pas. Elle doit continuer à se trouver un mari parce qu'elle ne peut pas dépendre sur elle-même. Elle doit pouvoir sur un homme qui ne la veut pas. Et cette femme est une victime. On ne sait pas une victime de... Il y a peut-être d'autres victimes, mais elle est une victime de honte, du moins, et d'une grande honte. On imagine donc que c'est pour ça qu'elle évite les femmes le matin au puits. Et peu importe la honte qu'on a vécue, peu importe notre désir d'être invisible, de ne pas rencontrer d'autres personnes, Jésus vient à notre rencontre. Au premier regard, on voit que Jésus vient franchir des barrières, mais il ne le fait pas comme on l'imagine. Tout premièrement, Jésus demande à boire à la femme. Samaritaine. Il avoue son besoin, il demande de l'aide. Quand moi, je parle à mes amis non-chrétiennes ou à mes amis non-chrétiens de ma foi, j'ai tendance à plutôt parler de comment ma foi vient tout combler. Jésus a tout comblé dans ma vie, j'ai pas de besoin, je glorifie ma foi, qui a quelque chose à glorifier, ma foi est merveilleuse. Mais je parle jamais de mes besoins, je parle jamais des manquements dans ma vie qui sont là parce que je suis humaine, ma vie n'est pas parfaite. Et j'essaie de toujours parler, mais pas toujours, j'ai tendance à parler de mes amis comme étant la personne qui ont un besoin. C'est eux qui ont besoin de Jésus. Mais Jésus, lui, malgré qu'il voit ça, il fait les deux, mais il voit la femme samaritaine comme étant un potentiel. Elle a quelque chose qui peut l'aider. Et ce, malgré son ethnie, sa religion, son sexe, sa classe sociale. Il voit le potentiel dans cette personne plutôt que voir son besoin. Jésus vient ensuite nous annoncer que les barrières de la foi juive seront bientôt renversées, et ce par lui, par sa mort. Jésus est venu tout réconcilier, pardon. Jésus nous invite tous à manger un repas avec lui à sa table. Aucune race n'est considérée supérieure à la table du Seigneur. Il nous invite tous à cette table, peu importe notre couleur de peau, la langue qu'on parle à la maison, le pays où on est né, notre culture d'origine. Jésus vient à notre rencontre, tous et chacun. Et même chose pour les femmes et les hommes. Je viens d'une descendance de femmes merveilleuses. Je travaille avec des femmes, je chemine spirituellement avec des femmes. Et malgré qu'historiquement, la foi chrétienne n'a pas toujours illustré avec dignité et grâce le rôle de la femme, Jésus nous montre que nous aussi, nous sommes invités à la table du Seigneur. Et ce n'est pas pour faire la vaisselle ou pour servir le repas, mais pour partager notre expérience, nos convictions, nos pensées. Jésus vient à notre rencontre, femmes et hommes. La table du Seigneur et l'Église sont le nouveau lieu de rencontre. Nous sommes complètement acceptés, complètement couverts de grâce. Nous sommes tous vus comme étant à l'image du Dieu créateur. La femme samaritaine sait au fond d'elle-même que cet homme n'est pas comme les autres. Il lui parle, il l'écoute, il veut son aide. Depuis le début, elle ressent ça. et cet homme est venu pour tout changer. Elle se demande s'il est le Messie. Et oui, Jésus lui dit qu'il est le Messie. Est-ce que vous savez c'est qui la première personne à qui Jésus a dit qu'il était le Messie? C'était à une femme samaritaine qui était marginalisée. Jésus est venu à sa rencontre. Et cette histoire biblique parle beaucoup d'eau, de soif, d'un puits. Il est question d'une eau physique, bien sûr, d'une eau dont on a tous besoin pour survivre, mais plus centralement, il est question d'une eau vive, d'une eau spirituelle, une eau qui vient tout changer, une eau qui vient satisfaire, une eau qui a comme source Jésus et qui vient combler notre être complètement. Et c'est assez convaincant comme discours, la femme, elle en veut. Mais l'histoire ne finit pas là, heureusement. Oui, Jésus vient à notre rencontre où nous sommes. Il descend à notre niveau, il franchit des barrières sociales pour nous trouver. Et c'est bien beau tout ça, et il faut célébrer que Jésus vient à notre rencontre, mais ça ne suffit pas. Le plus beau dans tout ça, selon moi, c'est que oui, Jésus vient à notre rencontre, mais il ne nous laisse pas, il nous a trouvés. Il nous amène plus loin. Il ne fait pas que franchir des barrières, il les détruit et il nous transforme. Et cette eau vive de Jésus nous donne la force de cheminer, d'avancer plus loin, de nous-mêmes franchir des barrières et de les renverser, de dépasser nos limites, et tout au nom de Jésus, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est venu tout réconcilier à travers lui, à travers sa mort, sa vie et sa résurrection. La femme retourne dans la ville, et cette fois-ci, c'est elle qui vient annoncer quelque chose à la place centrale. C'est elle qui avoue son histoire, mais pas pour avouer sa honte, mais pour illustrer qu'il est le Messie. Cette personne qu'elle a rencontrée au puits connaissait son histoire. Et c'est le Sauveur, et il est venu la changer. Elle raconte son histoire, sa rencontre avec Jésus, et on l'écoute. On la suit pour rencontrer Jésus. Et la vie d'un grand nombre de Samaritains a été transformée par Jésus et par son message cette journée-là. Et ça a été transformé par la révolution de Jésus. Jésus devait se rendre en Samarie pour commencer une réconciliation qui marque son ministère. Et Jésus nous invite à le joindre dans ce ministère aussi. Je pense qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, des victimes des construits sociaux qu'on a érigés en tant que société. En tant qu'humain, on aime faire des catégories. On aime différencier le moi versus le toi. Et avec cette catégorisation-là, on aime faire une hiérarchie. Et on peut voir les conséquences de ceci à travers l'histoire humaine. L'esclavage aux États-Unis et au Canada, les génocides en Europe, au Cambodge, même ici au Canada, la négligence actuelle des Autochtones, le génocide culturel qui a lieu. Et c'est facile pour moi de dire que je n'ai pas rapport dans tout ça, mais j'ai ma part à jouer. C'est beaucoup plus facile pour moi de vivre avec ces catégories-là, les accepter, mais de ne pas m'impliquer, que d'essayer de les détruire. Et le fait d'accepter, c'est une contribution. J'ai une responsabilité en tant que disciple de Jésus de ne pas vivre ma vie en acceptant nos construits sociaux. Donc voilà, une histoire qui vient tout changer. Elle nous transforme et elle nous pousse à aller plus loin. À tendre notre main à quelqu'un de quelqu'un de nouveau et à chercher la réconciliation. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? J'ai des suggestions à trois niveaux que je pense qu'on est tous appelés à faire en tant que disciples de Jésus. Donc, premièrement, j'arrête vraiment pas de... Je suis vraiment en arrière. OK. À trois niveaux. Donc, premièrement, dans nos relations en disciples, entre nous. Je suis certaine que même ici, on a créé des barrières. On a décidé avec qui on peut parler et à qui on ne peut pas parler à cause de notre classe sociale, notre âge, notre couleur de peau, la langue qu'on parle. Et on pense que cela nous empêche d'approcher l'autre. Et en effet, on a des différences. Puis je pense que c'est pas nécessairement le plus productif de faire comme si on ignorait les différences. On a des différences qui sont importantes. Mais on a une chose en commun, la chose la plus importante, on a Jésus en commun. Malgré qu'on ne le pense pas toujours automatiquement, mais Jésus, c'est l'élément le plus fondateur dans toutes nos vies, dans nos croyances, dans notre cheminement. C'est ça. Donc Jésus, c'est le même pour nous tous. J'ai lu une fois que je devrais avoir plus en commun avec un chrétien à l'autre bout du monde qu'avec un non-chrétien ici. Et puis c'est vrai, les construits sociaux qu'on a érigés ici ne devraient servir à rien. Donc je nous invite tous à aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau aujourd'hui. Moi-même, je gravite généralement vers la même personne après le culte. Et les personnes avec qui j'ai cheminé plus longtemps, avec qui j'ai plus d'affinité, mais il n'y a rien de mal à ça, mais nous sommes invités à être un corps uni. Et donc, allons voir quelqu'un de nouveau aujourd'hui. Pas simplement pour serrer la main, pour dire bonjour, bon dimanche, bonne semaine, mais approchons-nous et apprenons à connaître quelqu'un de nouveau, pour vrai, pour authentiquement, pour pouvoir cheminer ensemble. Dans notre église, nous sommes une église qui est vraiment bénie avec une grande diversité. Je pense que nous remarquons tous Par contre, parfois, que, on n'est pas toujours tous représentés dans l'Église et sa direction comme on devrait l'être. Que notre voix n'est pas entendue. Et peut-être qu'on pense que notre voix ne mérite pas d'être entendue. Mais sachez que notre désir, comme communauté biblique, d'être multiethnique, multigénérationnelle, multilingue, etc., ça ne devrait pas, et je ne pense pas que c'est l'est parce qu'on pense que c'est une bonne idée, c'est pour notre image, ça serait beau. Non, c'est parce qu'on en a besoin. Donc, si vous pensez que votre voix n'est pas entendue et que vous n'êtes pas représentée, c'est vraiment à vous de jouer. On désire une Église qui est multi-tout, parce que chacun d'entre nous, on vit notre contexte culturel différent, on est tous à l'image de Dieu. Et en ayant seulement un groupe de personnes qui est en avant de nos églises, avec nos enfants, qui font la louange, qui est dans notre communauté, on manque une facette importante du visage de Dieu. Et c'est la même chose pour nos rencontres. Je ne vais pas rencontrer une personne qui est différente de moi parce que je suis une bonne personne, parce que j'ai un bon cœur, je suis ouverte d'esprit, je suis supérieure. C'est parce que moi aussi, j'en ai besoin. J'ai un soif et quelqu'un qui est différent de moi a quelque chose qui peut m'aider. Et c'est pour ça que l'Église de Dieu est multi-tout. Et finalement, de notre témoignage, quand nous partageons notre foi. Lorsqu'on fait avancer le royaume de Dieu, nous sommes appelés à franchir des barrières. Honnêtement, j'ai des amis que je me dis « impossible ». Il ou elle ne sera jamais un chrétien, et donc le royaume de Dieu va devoir survivre sans lui. Mais imaginez si Jésus avait pensé ça quand il m'a vu, moi, ou toi, ou la femme samaritaine. Mais non, Jésus voit en chacun de nous un potentiel. Il voit notre rôle dans le royaume. Il voit un morceau du casse-tête. On ne devrait pas approcher l'autre avec une supériorité parce qu'on est déjà dans le royaume. Notre Église a besoin de tout le monde. On devrait plutôt voir l'autre comme un égal pour son potentiel, pour le besoin de notre Église. On veut leur montrer que dès le départ, ils ont quelque chose à offrir. Ils sont invités à la communauté. Et donc, franchissons ensemble ces barrières pour inviter nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle et nos frères et sœurs qui sont les uns et qui sont les autres, à manger à la table du Seigneur avec nous. Donc, je vais prier pour clore. C'est la fin. Donc, je vais prier. Merci, Seigneur, pour ta révolution. Merci pour ta réconciliation. Et malgré qu'on est imparfait, puis qu'on aime se différencier, puis on aime se exclure, aide-nous à inclure et à inviter. Puis je prie qu'on le fasse entre nous, mais aussi avec nos amis, les personnes qu'on ne connaît pas, les personnes qui ne te connaissent pas. Je prie que tu nous aides à faire avancer le royaume de Dieu comme tu veux qu'on l'avance et pour ta gloire.